Alexandre de Lameth raconte qu'au mois de juin 1790, une société patriotique l'invita à un banquet avec son frère, Duport et Barnave. Ce banquet de 200 personnes, hommes et femmes, fut vraiment spartiate. Et pour l'austérité patriotique, et pour la frugalité. Les convives ayant pris place, le président se lève et prononce avec solennité le premier article de la Déclaration des droits. Les hommes naissent et demeurent libres, etc. L'assemblée écouta dans un religieux silence, et le recueillement dura pendant tout le repas. Une Bastille en relief était sur la table. Au dessert, les vainqueurs de la Bastille, qui se trouvaient parmi les convives, tirent leur sabre, et sans mot dire, mettent la Bastille en pièces. Il en sort un enfant avec le bonnet de la liberté. Les dames placent des couronnes civiques sur la tête des députés et patriotes, et le dîner finit comme il avait commencé. Le président, pour oraison, prononce, dans la même gravité sombre, le second article de la Déclaration des droits, le but de toute association, etc. Le président était le mathématicien Rome, alors gouverneur des princes Trogonov. Il avait senti la liberté, où on la sent bien, en Russie. Il avait bu en plein esclavage la coupe de la Révolution. Ivre et froid en même temps, ce géomètre allait appliquer inflexiblement le nouveau principe et, par une large soustraction de chiffres humains, en dégager l'inconnu. Immuable calculateur au sommet de la montagne, il n'en descendit qu'aux deux prairiales pour s'enfoncer son compas dans le cœur. Les Lameth se virent avec frémissement dans un monde tout nouveau. Les nobles et élégants jacobins de 89 aperçurent les vrais jacobins. Ils en conviennent eux-mêmes. Cet homme de pierre qui présidait, ces textes législatifs récités pour oraison, le recueillement, le silence de ces fanatiques, cela leur parut effrayant. Ils commencèrent à sonder l'océan où ils entraient. Jusque-là, comme des enfants, ils jouaient à la surface. Que de générations révolutionnaires les séparaient de ceux-ci. Ils les comprenaient à peine. Ils connaissaient parfaitement les agitateurs de place, les ouvriers de l'émeute qu'ils employaient et lançaient. Ils connaissaient les journalistes violents, les bruyants aboyeurs de clubs. Mais les plus bruyants n'étaient pas les plus formidables. Par-delà toutes ces colères simulées au vrai, il y avait quelque chose de froid et terrible. Ce qu'ils venaient de toucher, ils avaient rencontré l'acier de la Révolution. Ils eurent froid et reculèrent. Ils voulaient du moins reculer et ne savaient comment le faire. Ils semblaient à l'avant-garde. Ils avaient l'air de mener, tout œil était fixé sur eux. La trinité jacobine, Duport, Barnave et Lameth, était saluée comme le pilote de la Révolution pour la mener en avant. « Ceux-ci au moins sont fermes et francs, disait-on. Ce ne sont pas des Mirabeau. Desmoulins les exaltent à côté de Robespierre. Marat, le défiant Marat, n'a nul soupçon encore sur eux. Ils devaient pourtant cette grande position à leur dextérité bien plus qu'à leur force. On ne pouvait manquer d'apercevoir leur côté faible, leurs fluctuations, leur caractère équivoque. On démêla d'abord le vide de Barnave, puis l'intrigue des Lameth. Duport fut connu le dernier. Chose curieuse, le premier coup, un très léger de ridicule, fut lancé d'une main nullement hostile par cet étourdi des Moulins, enfant terrible, qui disait toujours tout haut ce que bien d'autres pensaient, telle chose souvent qu'on était tacitement convenu de ne pas dire. Le matin, lisant son journal, ses amis y voyaient parfois des mots cruellement vrais. Ici, c'était à l'occasion de la motion pour le renvoi des ministres. Des Moulins se moquent de l'assemblée qui garde toujours la harangue de M. Barnave pour le bouquet, puis ferme à la discussion. Cette fois pourtant, ce n'était pas le cas, comme on dit, de tirer les chaînes. L'Espiègle, dans le même article, dit un mot original et juste qui frappe non seulement Barnave, mais presque tous les parleurs, tous les écrivains du temps. En général, les discours des patriotes ressemblaient trop aux cheveux de 89, plats et sans poudre. Où donc étais-tu, Mirabeau? Puis, il demande pourquoi les Lameth ont crié « aux voix » quand Pétion et Rubel voulaient parler, quand l'Hercule Mirabeau, avec sa massue, allait écraser les pygmées, etc. Un coup plus grave fut porté quelques jours après à Barnave, dont il ne s'est point relevé. Le journaliste Brissot, un doctrinaire républicain dont je parlerai bientôt tout au long, lui lança au sujet des hommes de couleur, dont Barnave annulait les droits, une longue et terrible lettre où il mit l'avocat à jour, suffisant, brillant et vide, plein de phrases et sans idées. Brissot, écrivain trop facile ordinairement mais ici fort de raison, trace avec sévérité le portrait du vrai patriote et ce portrait se trouve être l'envers de celui de Barnave. Le patriote n'est ni intrigant ni jaloux. Il ne cherche point la popularité pour se faire craindre de la cour et devenir nécessaire. Le patriote n'est point l'ennemi des idées. Il ne fait point de tirade contre la philosophie. Les plus grands citoyens de l'Antiquité n'étaient-ils pas des philosophes stoïciens? Etc. etc. Mais ce qui compromit le plus le parti Barnave et Lameth, c'est qu'au moment où le duel de Lameth le rendait très populaire, ils n'hésitèrent pas à se déclarer sur la question dangereuse de la garde nationale. Jusque-là, dans les moments difficiles, ils se taisaient, votaient silencieusement avec leurs adversaires. On avait pu le voir pour l'affaire de Nancy, où l'unanimité montra que les Lamettes avaient voté comme les autres. L'Assemblée, nous l'avons dit, avait peur du peuple. Elle l'avait poussé d'abord et maintenant elle voulait le ramener en arrière. En mai, elle avait encouragé l'armement, décrétant que nul n'était citoyen actif s'il n'était garde nationale. En juillet, au moment où la fédération montrait bien pourtant qu'on pouvait avoir confiance, on fit l'étrange motion d'exiger l'uniforme, ce qui était indirectement désarmer les pauvres. En novembre, une proposition plus directe fut faite par Rabault Saint-Étienne, celle de restreindre les gardes nationaux aux seuls citoyens actifs. Ces derniers étaient fort nombreux, nous l'avons vu, 4 millions. Mais tel était l'étrange état de la France d'alors, la diversité des provinces, que dans plusieurs, dans l'Artois par exemple, il n'y aurait presque pas eu de citoyens actifs ni de gardes nationaux. C'est ce que faisait valoir Robespierre avec beaucoup de force, étendant en exagérant cette observation, très juste pour sa province. Voulez-vous donc, disait-il, qu'un citoyen soit un être rare? Qu'on juge des applaudissements, du trépignement des tribunes. Le soir du 21 novembre, Robespierre soutenait cette thèse aux Jacobins. Mirabeau était président. Dans la fluctuation continuelle où le public était pour lui, tel jour le portant au ciel et l'autre voulant l'étrangler, il avait ambitionné cette présidence pour étayer sa popularité de celle des Jacobins. On compterait plutôt les vagues de la mer que les alternatives de Mirabeau. C'était entre lui et le public un orageux amour, plein de querelles et de fureurs. Camille est admirable là-dessus. Jamais froid ni indifférent. Aujourd'hui, il l'appelle maîtresse adorée et demain fille publique. Mirabeau avait baissé pour sa proposition de remercier Bouillet. Mais il avait remonté par un terrible discours contre ceux qui avaient osé se moquer des trois couleurs, un de ces discours éternellement mémorables qui font que cet homme-là, fût-il plus criminel encore, ne pourra jamais, quoi qu'on fasse, être arraché de la France. Et puis, il avait baissé en proposant d'ajourner la réunion d'Avignon, de ménager encore le pape. Mais il avait remonté par une simple apparition au théâtre, où pour la première fois on rejouait Brutus. Sa vue fit tout oublier, réveilla l'amour, l'enthousiasme, Veteris vestigia flammae. On ne regardait que lui, on lui adressait 1000 allusions. Ce fut un triomphe éclatant, mais le dernier. Cela, le 19 novembre. Le 21, président aux Jacobins, Mirabeau écoutait avec impatience le discours de Robespierre sur la garde nationale restreinte aux citoyens actifs. Il entreprit de lui ôter la parole, sous prétexte qu'il parlait contre les décrets rendus. Chose grave, périlleuse, devant une assemblée émue, toute favorable à Robespierre. « Continuez, continuez » crie-t-on de toute la salle. Le tumulte est au comble. Impossible de rien entendre, ni président, ni sonnette. Mirabeau, au lieu de se couvrir comme président, fit une chose très hardie, qui allait ou lui donner l'avantage, ou faire éclater sa défaite. Il monta sur le fauteuil, et comme si le décret attaqué était au lui, Mirabeau, comme s'il s'agissait de le défendre et le sauver, il crie « À moi, mes collègues, que tous mes confrères m'entourent !» Cette périlleuse démonstration fit cruellement ressortir la solitude de Mirabeau. 30 députés vinrent en son appel, et l'assemblée tout entière resta avec Robespierre. Desmoulins, ancien camarade de collège de celui-ci, et qui ne perd nulle occasion d'exalter son caractère, dit à cette occasion « Mirabeau ne savait donc pas que si l'idolâtrie était permise chez un peuple libre, ce ne serait que pour la vertu ?» Grande révélation aussi du changement profond qu'avait déjà subi le club des Jacobins. Fondé par les députés et pour eux, il n'en avait plus dans son sein qu'un petit nombre qui n'y pesait guère. Des admissions faciles, d'hommes ardents, impatients, avaient renouvelé le club. L'assemblée y était sans doute, mais la future assemblée. Pour elle, seule parlait Robespierre. Charles de Lamette arrive, le bras en écharpe. On fait volontiers silence. Tout le monde était convaincu qu'il était pour Robespierre. Il parla pour Mirabeau. Le vicomte de Noailles déclara que le comité avait entendu le décret autrement que Mirabeau et Lamette, dans le sens de Robespierre. Celui-ci reprit la parole avec toute l'assemblée pour lui, le président réduit au silence. Au silence, Mirabeau ? Voilà les Lamettes bien malades. Fondateurs des Jacobins, ils les voient échapper. Leur popularité datait surtout du jour où ils luttèrent contre Mirabeau sur le droit de paix et de guerre, et les voilà compromis, associés à Mirabeau dans la défiance politique. Ils vont enfoncer, se noyer s'ils ne trouvent moyen de se séparer violemment de celui-ci, de le jeter à la mer. Et si, d'autre part, leur guerre au clergé ne leur ramène l'opinion. Il est bien juste de dire que les prêtres faisaient tout ce qu'il fallait pour mériter la persécution. Ils avaient eu l'adresse de faire reculer dans l'ombre la question des biens ecclésiastiques, de mettre en lumière, en saillie, la question du serment. Ce serment, qui ne touchait en rien la religion ni le caractère sacerdotal, le peuple ne le connaissait pas, et il croyait volontiers que l'assemblée imposait aux prêtres une sorte d'abjuration. Les évêques déclaraient qu'ils n'auraient aucune communication avec les ecclésiastiques qui prêteraient le serment. Les plus modérés disaient que le pape n'avait pas encore répondu, qu'il voulait attendre, c'est-à-dire que le jugement d'un souverain étranger déciderait s'il pouvait obéir à la patrie. Le pape ne répondait pas. Pourquoi ? À cause des vacances. Les congrégations des cardinaux ne s'assemblaient pas, disait-on, à cette époque de l'année. En attendant, par les curés, par les prédicateurs de Touran et de toute robe, on travaillait à troubler le peuple, à rendre le paysan furieux, à jeter les femmes dans le désespoir. Depuis Marseille jusqu'à la Flandre, un concert immense, admirable contre l'assemblée. Des pamphlets incendiaires sont colportés de village en village par les curés de la Provence. À Rouen, à Condé, on prêche contre les assignats comme invention du diable. À Chartres, à Péronne, on défend cher de payer l'impôt. Un curé bravement se propose pour aller à la tête du peuple massacrer les percepteurs. Le chapitre souverain de Saint-Waast dépêche des missionnaires pour prêcher à mort contre l'assemblée. En Flandre, les curés établissent d'une manière forte et solide que les acquéreurs des biens nationaux sont infailliblement damnés, eux, leurs enfants et descendants. Quand nous voudrions les absoudre, disaient ces furieux. Est-ce que nous le pourrions ? Non. Personne ne le pourrait. Ni curés, ni évêques, ni cardinaux, ni le pape. Damnés. Damnés à jamais. Une bonne partie de ces faits étaient mis au jour, répandus dans le public, par la correspondance des Jacobins et le journal de Laclos. Ils furent réunis et groupés dans un rapport que le Jacobin Voidel fit à l'Assemblée. Mirabeau appuya par un long et magnifique discours où, sous des paroles violentes, il tendait aux voix de douceur, restreignant le serment aux prêtres qui confessaient. Pour l'affaiblissement du clergé, il voulait qu'on se fie à autant aux extinctions, etc. Mais l'Assemblée fut plus aigre. Elle voulait châtier. Elle exigea le serment. Le serment immédiat. Une chose étonne dans cette assemblée composée pour sa bonne part d'avocats voltairiens, c'est sa croyance naïve à la sainteté, à l'efficacité de la parole humaine. Il fallait qu'il y eût encore, après toute la sophistique du XVIIIe siècle, un grand fond de jeunesse et d'enfance dans le cœur des hommes. Il se figure que du moment où le prêtre aura juré du jour où le roi aura sanctionné leur décret, tout est fini, tout est sauvé. Et le roi, au contraire, honnête homme du vieux monde, s'en va mentant tout le jour. La parole qu'il croit une difficulté si grande, un obstacle, une barrière, un lien pour l'homme, n'embarrassant rien le roi. De crainte qu'on ne le croie assez, il passe toute mesure. Il parle et reparle sans cesse de la confiance qu'il mérite. Il s'exprime, dit-il, ouvertement, franchement. Il s'étonne qu'il s'élève des doutes sur la droiture connue de son caractère. 23-26 décembre 90. Les plus innocents de tous, les jansénistes, ne s'arrêtent pas à cela. Ils veulent du réel, du solide, un serment. Du vent, du bruit. Donc, le 27 novembre, un décret terrible. L'Assemblée veut, tout de bon, que les évêques, curés, vicaires, jurent la Constitution sous huitaine. Sinon, ils seront censés avoir renoncé à leur office. Le maire est tenu, 8 jours après, de dénoncer le défaut de prestation de serment. Et ceux qui, le serment prêté, y manqueraient, seront cités au tribunal du district. Et ceux qui, ayant refusé, s'immisceraient dans leurs anciennes fonctions, poursuivis comme perturbateurs. Décrété, non sanctionné. Nouvel effroi des jansénistes qui se sont avancés si loin. Ils veulent un résultat. Le 23 décembre, Camus demande que la force intervienne, la force sous forme de prière, que l'Assemblée prie le roi de lui répondre d'une façon régulière sur le décret. La force, c'est ce qu'attendait le roi. Il répond immédiatement qu'il a sanctionné le décret. Il peut dire ainsi à l'Europe qu'il est forcé et captif. Il dit à M. de Fersen, « J'aimerais mieux être roi de Metz. » Mais cela finira bientôt. Chose remarquable, ni Robespierre, ni Marat, ni Desmoulins n'auraient exigé le serment. Marat, si intolérant, Marat, qui demande qu'on brise les presses de ses ennemis, veut qu'on ménage les prêtres. C'est, dit-il, la seule occasion où il faut user de ménagement, il s'agit de la conscience. Desmoulins ne veut nulle autre rigueur que d'ôter l'argent de l'État à ceux qui ne jurent point obéissance à l'État. S'ils se cramponnent dans leur chair, ne nous exposons pas même à déchirer leur robe de lin pour les en arracher. Cette sorte de démon qu'on appelle pharisien, calotin ou prince des prêtres n'est chassé que par le jeûne. Non egitur nisi per jejunium. L'exigence dure et maladroite qu'on mit à demander le serment aux députés ecclésiastiques dans l'assemblée même fut une faute très grave du parti qui dominait. Elle donna aux réfractaires une magnifique occasion, éclatante, solennelle, de témoigner devant le peuple pour la foi qu'il n'avait point. L'archevêque de Narbonne disait plus tard, sous l'Empire, « Nous nous sommes conduits en vrai gentilhomme. » Car on ne peut pas dire de la plupart d'entre nous que ce fut par religion. Il était facile à prévoir que ces prélats, mis en demeure de céder devant la foule, de démentir solennellement leur opinion officielle, répondrait en gentilshomme. Le plus faible, ainsi poussé, deviendra un brave. Gentilhomme ou non, cet enfant des Français. Les curés les plus révolutionnaires ne purent se décider à laisser leurs évêques au moment critique. La contrainte les choqua. Le danger les tenta. La beauté solennelle d'une telle scène gagna leur imagination, et ils refusèrent. Dès la première séance où l'on interpella le seul évêque de Clermont, on pouvait jurer de l'effet. Grégoire et Mirabeau, le jour suivant, 4 janvier, tâchèrent d'adoucir. Grégoire dit que l'Assemblée n'entendait nullement toucher au spirituel, qu'elle n'exigeait même pas l'assentiment intérieur, ne forçait pas la conscience. Mirabeau alla jusqu'à dire que l'Assemblée n'exigeait pas précisément le serment, mais seulement qu'elle déclarait le refus incompatible avec telle fonction qu'en refusant de jurer, on était démissionnaire. C'était ouvrir une porte. Barnave la ferma avec une aigre violence, croyant sans doute regagner beaucoup dans l'opinion. Il demanda et obtint qu'on ordonnât de jurer sur l'heure. Mesure imprudente qui devait avoir l'effet de décider le refus. Les refusants allaient avoir la gloire du désintéressement et aussi celle du courage. Car la foule assiégeait les portes, on entendait des menaces. Les deux parties s'accusent ici. Les uns disent que les Jacobins essayèrent d'enlever le serment par la terreur, les autres que les aristocrates apostèrent des aboyeurs pour constater la violence qu'on leur faisait, rendre odieux leurs ennemis, pouvoir dire comme ils le firent en effet, que l'Assemblée n'était pas libre. Le président fait commencer l'appel nominal. « Monsieur l'évêque d'Agen !» L'évêque, « Je demande la parole. » La gauche, « Point de parole, prêtez-vous le serment, oui ou non ?» Bruit au dehors. Un membre, « Que monsieur le maire aille donc faire cesser ce désordre. » Monsieur l'évêque d'Agen, « Vous avez dit que les refusants seraient déchus de leurs offices. Je ne donne aucun regret à ma place. J'en donnerai à la perte de votre estime. Je vous prie d'agréer le témoignage de la peine que je ressens de ne pouvoir prêter le serment. » On continue l'appel. Monsieur le curé Fournès, je dirai avec la simplicité des premiers chrétiens, je me fais gloire et honneur de suivre mon évêque comme Laurent suivit son pasteur. Monsieur le curé Leclerc, je suis enfant de l'église catholique. L'appel nominal réussissant si mal, un membre fit observer qu'il n'avait pas été exigé par l'Assemblée, qu'il n'était pas sans péril, qu'on devait se contenter de demander collectivement le serment. La demande collective n'eut pas plus de succès. L'Assemblée n'en tira d'autre avantage que de rester un quart d'heure, et plus, silencieuse, impuissante, et de donner à l'ennemi l'occasion de dire quelques nobles paroles qu'il ne pouvait manquer, dans un pays comme la France, de faire bien des ennemis à la Révolution. Monsieur l'évêque de Poitiers, j'ai 70 ans, j'en ai passé 35 dans l'épiscopat où j'ai fait tout le bien que je pouvais faire. Accablé d'années et d'études, je ne veux pas déshonorer ma vieillesse, je ne veux pas prêter un serment. Murmure. Je prendrai mon sort en esprit de pénitence. Ce sort n'eut rien de funeste. Les évêques sortirent sans péril de l'assemblée. Ils revinrent tant qu'ils voulurent. L'indignation de la foule n'entraîna aucun acte violent. La séance du 4 janvier fut le triomphe des prêtres sur les avocats. Ceux-ci, dans leur maladresse, s'étaient comme affublés de la vieille robe du prêtre, de cette robe d'intolérance fatale à qui la revêt. Les évêques gentilshommes trouvèrent dans la situation des paroles heureuses et dignes, qui pour leurs adversaires furent des coups d'épée. La plupart de ces prélats qui parlaient si bien n'étaient pourtant que des courtisans intrigants et malfamés. Dans notre sérieux monde moderne qui demande aux prêtres vertu et lumière, ils auraient été obligés tôt ou tard de se retirer de honte. Mais la profonde politique des Camus et des Barnaves avait trouvé le vrai moyen pour leur ramener le peuple, pour en faire des héros chrétiens, les sacrés par le martyre.